Chapitre 65. L'éclairage ambré de la route dessine des ombres sur le visage concentré de Saga, ainsi que sur sa main gauche, posée sur le volant. Karl est assis à côté d'elle et s'efforce de ne pas la regarder trop souvent. La Porsche noire vient de dépasser Söderhagen sur la Nuneswegen. Il y a 20 minutes, depuis la rue devant la grande villa de plain-pied où Karl loue un appartement au sous-sol, Saga l'a vu traverser la cuisine des propriétaires à la lueur de la télévision du salon, se glisser dans le couloir et prendre une clé dans l'armoire. Il n'a rien dit, ne s'est pas fait remarquer, n'a pas allumé de lumière. Quelques secondes plus tard, la porte du garage s'ouvrait. Pendant que Saga conduit, Karl suit ses instructions et cherche des fermes à l'extérieur de Västerhaninge. Il en a trouvé 15, mais aucune associée au nom de Makarov. Ce n'est que lorsqu'ils ont étendu la recherche aux noms que Mara avait mentionnés, Vadim et Aglaya, qu'ils ont obtenu un résultat. Un certain Vadim Alexeyevitch Gourkin avait acheté une ferme sur la route d'Ormstad juste un an avant l'accident de bateau dans l'archipel de Stockholm. Après le décès de Vadim, le parent russe qui en a hérité n'a pas réclamé de titre de propriété, laissant la ferme à l'abandon. À l'embranchement de Force, Saga prend la sortie de l'autoroute, passe devant une carrière, puis sous le viaduc de la route 560. « Tout ça est très excitant, » commente Karl. « Mais ce ne serait pas plus sage de se rendre à la police et de tout lui raconter ?»« On n'a pas le temps. Je suis la seule à pouvoir sauver Juna. » répond Saga sur un ton sec. Elle accélère encore tandis que l'étroite route de terre contourne des bâtiments industriels en tôle bleu clair. « Pourquoi es-tu la seule à pouvoir sauver Juna ?» demande Karl avec prudence. « Parce que c'est ce qu'elle a dit. Parce qu'elle le déteste plus que tout. » « Makarov a dit que si je n'arrête pas Mara, elle le tuera. »« Tu dois parler à Juna. »« Peut-être, » murmure-t-elle. Après les grands bâtiments industriels en tôle bleue, les parkings vides et les rangées de conteneurs à ordures, le paysage s'ouvre sur des champs. Il roule sur un chemin, passe devant des pâturages aux clôtures électriques et pénètre bientôt dans une forêt. Des branches giflent les flancs de la voiture. La pénombre forme un étroit couloir devant eux. Même si Saga ralentit dès qu'elle aperçoit des nids de poules, la voiture est secouée. « On se rapproche, » murmure Karl. Il est presque impossible de distinguer le sol entre les troncs d'arbres. Puis la forêt s'ouvre à nouveau sur un paysage plat, d'un gris clair qui contraste avec l'obscurité. Les champs sont en jachère, secs et poussiéreux. Des choucas tournent autour d'un bosquet d'arbres, quelques chevreuils errent plus loin, sous les lignes électriques. « Ça ne devrait plus être très loin, » dit-elle. Ils prennent un large virage et distinguent des maisons sombres à travers les broussailles denses qui bordent le fossé. Un groupement de fermes délabrées, avec un alignement de granges rouges. Aucune voiture en vue, aucune lumière à travers les fenêtres fissurées. Ils passent l'entrée d'une ferme, roulent quelques centaines de mètres, font un demi-tour là où c'est possible, reviennent un peu sur leurs pas et se garent à côté d'un bosquet qui les dissimule des bâtiments. « Je vais jeter un œil. Mais quoi qu'il arrive, tu ne quittes pas la voiture. » le prévient Saga avec gravité. « Qu'est-ce que je fais? Je dois juste rester assis à t'attendre. » « Si une voiture, probablement un pick-up, quitte la zone, tu te baisses. » Et tu appelles Juna dès qu'elle a disparu dans la forêt.
Donc je vais parler à Juna, Lina?
Dis-lui que tu l'appelles de ma part. Qu'il faut immédiatement bloquer Amstavegen depuis le carrefour de Force.
Ok, d'accord.
Elle saisit son portable dans le compartiment entre les sièges et y ajoute le contact de Juna. Si tu entends des coups de feu, ou si je ne reviens pas dans 30 minutes, tu appelles Juna et tu lui expliques la situation. Mais tu ne quittes pas la voiture. Insiste-t-elle en ouvrant la portière.
« Compris.
Tu as une lampe de poche ?»«
Non. En fait, j'ai juste ça. »
répond-il en montrant une petite lampe sur un porte-clés. « Parfait, » dit-elle en la lui prenant. Le petit objet en plastique bleu a un bouton rond sur le côté et une lumière LED de la taille d'une tête d'épingle.
« Sois prudente, »
chuchote-t-il quand elle sort de la voiture. Elle repousse silencieusement la portière, et commença à avancer dans l'air frais, en direction de la cour. Le gravier crisse légèrement sous ses chaussures. Le vent balaie les fourrés et les mauvaises herbes. Elle s'arrête, sort son arme, mais la garde cachée sous son coupe-vent, puis s'engage dans une allée étroite. Les maisons, les granges, les garages et les entrepôts sont étroitement espacés. Les toits ont des hauteurs différentes. La plupart sont recouverts de tôles ondulées ou de zinc peint en noir. Des pneus de tracteurs, des godets de pelleteuse et du bois de bouleau sous une bâche verte sont remisés à côté de la maison. À la lisière de la forêt, on aperçoit une citerne en fer tubulaire de couleur rouille contenant du diesel pour le tracteur. Elle est longue d'environ 4 mètres. Saga traverse la cour de gravier sous la lueur des étoiles. 5 poubelles en plastique vert sont alignées contre le mur du garage. Au-dessus du sol, le lambris rouge foncé est en mauvais état. Les cadres et les barreaux des fenêtres du garage sont écaillés. Certaines vitres sont manquantes et des éclats de verre gisent dans les mauvaises herbes. Elle soulève les couvercles des poubelles et constate qu'elles sont vides. Une volée des tourneaux passe au-dessus des toits, s'installe dans un vieux pommier, puis repart dans un bruit de battement d'ailes. Saga longe le portail du garage, continue jusqu'à une petite porte, écarte avec précaution le verrou coulissant. Elle entr'ouvre. Elle est saisie par une forte odeur de métal et d'huile. Lorsqu'elle allume la petite lampe de poche de Karl, elle devine, dans l'obscurité, un tracteur rouillé attelé à un semoir et une presse à balles aux pneus crevés. Elle entre, referme la porte derrière elle, passe devant les engins et enjambe une herse pleine d'herbes séchées. Elle s'arrête, tend l'oreille, baisse son glock et sent le poids de l'arme dans le muscle de son épaule. Une grosse chaîne traîne sur le sol en ciment à côté d'une fourche à palette. Elle traverse le garage, franchit une porte étroite et emprunte un passage exigu au sol sableux. À travers les interstices des planches du mur, elle peut voir la cour. Un léger bruit lui parvient dans l'obscurité. Saga lève son pistolet et rallume la lampe de poche. Un gros rat se tient un peu plus loin. Il s'éloigne paresseusement tandis qu'elle continue jusqu'à l'entrée d'un autre bâtiment. Elle éteint à nouveau la lampe, s'apprête à soulever le loquet lorsqu'elle perçoit à nouveau un bruit derrière elle. Comme si quelqu'un caressait de sa main le capot du tracteur. Elle retient son souffle, déplace son doigt du pontet à la détente et la presse au-delà du premier cran. Tous ses sens sont en éveil. Elle entend des pas légers dans le sable derrière elle. Elle se retourne brusquement, pointe son arme et allume la lampe de poche.